Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama. Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, émission numéro 2 de Cinérama. Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Aujourd'hui, un sommaire avec des nouveautés, puisque c'est la deuxième émission de cette saison 2014-2015. Et les nouveautés viennent plutôt de toi, Marine. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ?
Alors moi, je vous propose un petit cycle. Que sont-ils devenus ? Donc où je vous dirai que sont devenus certains acteurs et actrices que l'on a un petit peu oubliés. Et aujourd'hui, je vais commencer avec Macaulay Culkin, qu'on connaît évidemment pour son rôle dans « Maman, j'ai raté l'avion ».
Et puis toi, Manu, deux choses.
Deux sorties déjà, deux sorties ciné, hein, « Maintenant ou jamais » et « Délivre-nous du mal », deux films très différents, mais c'est pas pour ça qu'ils sont bons tous les deux. Enfin, je dirais même qu'ils sont assez mauvais. Et puis, je poursuis donc mon exploration, enfin, entre parenthèses, du polar français avec un film Sans espoir de retour de Samuel Fuller.
Et puis, nous ferons alors là un mini débat sur le dernier Christophe Honoré Métamorphose que nous avons vu tous les deux, Marine. Et puis, on aura l'occasion de jouer avec vous, chers auditeurs, au blind test, un blind test spécial, alors univers hospitalier. Voilà, il faudra découvrir avec des extraits bien des films qui se passent dans l'univers hospitalier. Et c'était l'occasion de la sortie d'Hippocrate, film plutôt réussi, qui est sorti la semaine dernière. C'est Cinérama.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Alors, le surendettement, c'est un phénomène de société inquiétant, en fait. Hein, mais c'est aussi, c'est ce qui nous intéresse, là, Cinérama. Je trouve un bon sujet de cinéma. Non, mais c'est vrai. Pouvant inspirer des genres aussi différents que le mélo, le film social et puis aussi le thriller. Alors, c'est ce que tente un peu Serge Friedman avec son second long métrage, Maintenant ou jamais. Auteur d'un premier film avec Vanessa Paradis, Mon ange, et surtout scénariste attitré de Patrice Lecomte depuis 20 ans, Friedman s'est littéralement pris les pieds dans le tapis en mélangeant les genres et surtout en partant d'un postulat de départ non seulement invraisemblable, mais bon là encore, l'invraisemblance au cinéma c'est un concept relatif, hein, mais aussi à mon avis d'une stupidité assez déconcertante.
Ah, attendez, hey, vous pourrez pas
aller. Allez,
dans
allez, on se donne la main.
Allez, on y va.
Elle est où ma chambre ?
Viens ici, toi.
De toute façon, on a juste payé un petit bout.
Vous devez être heureuse de partir de Paris.
On est heureux. Très, très heureux.
C'est eux qui voulaient que tu viennes travailler dans leur banque, non ?
Quand t'arrives en dernier, tu pars le premier, voilà. Il y avait plus que 8 jours pour que je sois plus à laisser. Ils me doivent rien, Juliette.
On va aller où ? Et la maison, ça veut dire quoi ?
Si vous reconnaissez votre agresseur, vous me le dites.
Non, il est pas là. Vous allez venir avec moi ?
Non, non, je suis pas venir avec vous, non.
Vous voulez quoi que je crie ?
Tu me veux quoi, là ?
C'est de l'argent que vous cherchez, non ? J'ai 3 distributeurs là-bas sur le côté. Et il y a un mec qui passe tous les soirs pour remplir les machines.
Vous croyez que vous pouvez prendre le premier mec qui passe et lui dire viens, on va se faire une banque ? Mais vous êtes qui, vous ?
Je vous donnerai un tiers de ce qu'on arrivera à sortir.
Une gentille mère de famille, hein, professeur de piano, voit ses rêves littéralement partir en fumée le jour où son mari est licencié avant la fin de son mois d'essai dans une banque. Alors fini, hein, le beau piano, la jolie maison à la campagne et les petits déjeuners ricorés le dimanche matin en famille. Mais par chance, elle se fait voler son sac par un petit délinquant récidiviste. Et avec une chance inouïe, la police le retrouve. Donc elle refuse de l'identifier et le contacte pour cambrioler à la banque qui a viré son mec. Alors je ne sais pas, mais comme ça, moi, le pitch me paraît mais totalement idiot et absolument invraisemblable du début à la fin. Enfin, c'est assez hallucinant. Alors il me semble que pour en arriver déjà à pour en arriver là, il faut être vraiment dans une situation bien plus désespérée, dans une véritable impasse, ce que le personnage incarné par Leila Bekhti ne paraît pas du tout. Et puis on se dit que, en fait, que tout cela, c'est peut-être pour l'adrénaline ou pour s'encanailler, fricoter avec un petit voyou, ce qui la changerait quand même de son mari un peu béné dans le film. Voilà, bon. Comme Friedman hésite vraiment entre les genres abordés, rien n'est crédible, même pas le côté polar, hein, trop timoré pour vraiment intéresser. La mise en scène illustrative est calquée sur les codes esthétiques télévisuels et puis la direction d'acteurs laisse franchement à désirer. Alors Arthur Dupont et Nicolas Duvauchel, ils sont franchement mauvais. Alors l'actrice principale est plutôt bien, mais bon, elle a du mal à sauver un personnage quand même absolument pas crédible du début à la fin.
Duvauchel en même temps est assez rarement bon. Hein. Moi, c'est ce que je me tue à dire depuis 5 ans, mais bon.
Et puis sinon, la Becti est aussi Légérie Chanel, donc ça aussi, peut-être que ça...
Ça passe pas trop. Alors, elle avait déjà joué dans un film de Cédric Kahn. En fait.
Ah, pardon.
Elle avait déjà joué dans un film de Cédric Kahn sur le surendettement avec Guillaume Canet, je ne me souviens plus du titre. Et c'était déjà le sujet et il paraît que c'était quand même supérieur. Hein.
Une vie meilleure.
Une vie meilleure, voilà.
Passons au deuxième film qui n'était pas meilleur.
Qui n'est pas meilleur, hein, qui s'appelle « Délivre-nous du mal ». Alors, comme son titre l'indique, c'est un film sur le malin. On aurait dû s'en douter, hein, toute la teneur idéologique du film est bien dans le titre. Gros pensum étouffe chrétien déguisé en thriller horrifique, Délivre-nous du mal confirme la volonté du cinéaste à convaincre le spectateur de l'existence de Dieu. Alors à sa manière, Scott Derrickson, hein, qui n'en est pas à son premier méfait, est un auteur. Le prosélytisme dont il fait preuve de film en film serait presque touchant si tout cela n'était pas aussi putassier et fabriqué. Alors déjà, l'exorcisme d'Emily Rose a scéné son discours avec un sérieux assommant, renvoyant tous les athées du monde à leur propre ignorance. Alors on va écouter un extrait présentant un des personnages principaux, notamment le prêtre.
C'est bon Ralph, signe sa sortie.
Ils lui ont donné des calmants.
Elle est sous sédatif.
Vous la connaissez?
Oui, elle s'appelle Jane Crenna.
Et vous, vous vous appelez?
Joe Mendoza, c'est une de mes ouailles.
De vos ouailles? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je suis prêtre jésuite.
Et où est votre col blanc, padré?
Je suis en civil, comme vous.
Vous l'accompagnez?
À la demande de la famille qui voulait l'aide d'un spécialiste.
Vous êtes psychiatre en plus.
Non, pas du tout. Vous pouvez me décrire comment elle se comportait quand vous l'avez trouvée au zoo?
Comme si elle était cinglée, voilà comment.
Elle vous a semblé avoir une force inhabituelle?
Non. Pourquoi?
Ça vous intéressera pas. Mais s'il vous revient un détail plus précis ou si je peux vous aider, n'hésitez pas, appelez-moi.
C'est noté.
Alors le prêtre jésuite, hein, qui est un prêtre quand même torturé, qui boit et qui fume... Avec donc le lieutenant qui est athée, enquête donc sur une série de faits étranges et inexpliqués. Une mère jette son enfant dans la fosse aux lions, enfin dans un zoo, hein, comme on a compris dans l'extrait. Un mari devient fou et tabasse sa femme et son enfant. Un autre se suicide d'une étrange manière. Et tout ça serait juste l'œuvre du malin. Et point final. Car le mal agit sans raison juste parce qu'il est le mal. Et le début d'ailleurs se situe comme par hasard en Irak. Le mal vient de là-bas. Et ça, c'est pas une nouveauté. Hein. Déjà dans l'Exorciste, le mal venait déjà de l'Égypte. Et c'est un cas assez récurrent du cinéma américain de présenter le mal vient toujours d'ailleurs. Et souvent, c'est dans les pays du Maghreb. Hein. Bon, bah, c'est peut-être le hasard, hein, je sais pas. Hein. Alors ne cherchez pas plus loin. Hein. Délivre-nous du mal est juste un navet de propagande religieuse. Certes, efficacement réalisé, mais totalement déjà sabordé par la calamiteuse prestation d'Eric Bana, flic torturé et athée, mais qui retrouvera tout à la fin la voix de la raison. Alors parmi les autres clichés éculés et honteux véhiculés par le film, je pense que le plus archaïque est encore d'assimiler le rock, les Doors pour l'occasion, à la musique du diable. En 2014, on en est encore là. Et ça m'a fait penser à un film, hein, au prêtre de Footloose, qui voyait en Kevin Bacon l'incarnation du vilain parce qu'il dansait sur du rock.
Eh oui.
Voilà, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Hein.
Pourtant, c'était déjà à la fin des années 70, normalement.
C'était 83.
Ah oui, le rock était déjà bien passé par là.
C'était même pas du rock qu'il y avait dans le film, mais bon, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Vraiment, c'est une vraie purge. Hein.
Allez, maintenant, on va jouer au blind test.
La culture est en de bonnes mains, m'a-t-on dit.
Cinérama.
J'en suis conscient à chaque instant.
Sur Divergence FM.
Et aujourd'hui, c'est un blind test, alors spécial monde médical. Les films sur le monde médical sont peu nombreux. Hein. Il y a bien des séries, une bonne cinquantaine, dont la plus illustre est Urgence. Et si en plusieurs saisons, on peut s'intéresser à la vie d'un hôpital, le cinéma a plus de mal à construire une fiction d'une heure trente autour de ce lieu. Alors, l'angle choisi par le réalisateur et diplômé de médecine Thomas Little pour Hippocrate est intéressant. Il s'agit donc de suivre Benjamin qui fait son internat dans un hôpital public au sein même du service dirigé par son père. Alors, c'est dans une veine réaliste que nous allons être immergés dans le monde hospitalier, touchant les relations de pouvoir, de compétences, d'ego. Hippocrate questionne aussi la fin de vie, l'acharnement thérapeutique. Alors, hormis quelques maladresses, Hippocrate est une réussite et compte parmi les rares films à s'inscrire dans le monde aseptisé de l'hôpital. Le cinéma n'a que rarement l'occasion de voir l'institution hospitalière sous cet angle réaliste. On préfère généralement la distance, le spectaculaire ou la comédie, comme on va le comprendre en écoutant donc ces extraits. On commence par le premier, c'est très facile.
Vous prenez vos renseignements sur Ashcliffe. Vous attendez l'occasion d'aller y jeter un coup d'œil et tout à coup ils font appel à un marshal?
Oui. Un coup de chance que cette patiente se soit échappée, il n'y avait pas de meilleure excuse.
Non, chef, la chance ne tourne pas comme ça. Le monde ne tourne pas comme ça. Ils ont électrifié l'enceinte d'une station d'épuration. Ils ont un bloc C, installé entre les murs d'une forteresse. Un chef des surveillants lié à l'OSS, des fonds octroyés par l'UAC. Putain de Dieu, chef! Je vous le dis, je trouve que ça pue le secret défense à plein nez, moi. Peut-être qu'il voulait que vous veniez.
Dites pas de conneries.
Vous posiez une foule de questions.
C'est impossible.
Impossible? On est venu pour Rachel Solando. Où est la preuve qu'il ait jamais seulement existé?
Ils n'avaient aucun moyen de savoir qu'on allait me laisser diriger cette enquête. Aucun moyen.
Et si pendant que vous preniez vos renseignements, ils avaient enquêté sur vous? Il leur fallait juste faire croire à une évasion pour vous attirer ici. Ils vous ont eu, ils nous ont eu tous les deux. Maintenant, ils nous tiennent.
Voilà, ça a été trouvé, et j'imagine du côté des auditeurs. Manu.
Bah, c'est Shutter Island.
Ah oui, on entendait donc la voix française de DiCaprio et de Ruffalo. Il manquait aussi Ben Kingsley qui jouait dans ce film, où bah, là, l'hôpital était transposé sur une île. On passe à un autre extrait. Alors là, c'était un film de la fin des années 70. Et alors, ça se passe en partie à l'hôpital, le tout début, mais pas seulement.
Elle subit encore l'effet du choc provoqué par l'accident. Il nous est impossible de l'envoyer à l'hôpital de la ville. Par contre, ses greffes sont satisfaisantes. Nous avons pu contrôler aussi toutes les greffes internes par l'électronique. Et nous avons constaté qu'un nouveau tissu se développait dans la cavité abdominale. Son casque lui a probablement épargné une commotion cérébrale. Malgré cela, elle n'est qu'à moitié consciente.
Elle le redeviendra ?
Que voulez-vous que je vous dise ? Il n'y a pas de miracle. J'ai fait de mon mieux. Venez la voir à n'importe quel moment, vous serez toujours le bienvenu.
Alors, c'est pas forcément évident. Alors là, le mot-clé, c'est greffe. Voilà, c'est un professeur qui fait des greffes. C'est un couple qui a eu un accident de moto. Ils vont dans l'hôpital le plus proche, en fait. Et lui, il réalise des greffes pour essayer de la sauver.
C'est pas un film de Cronenberg,
si.
C'est Rage, alors.
Oui, c'est Rage.
Rage, alors,
c'est
Marilyn Rage. Chambers, oui. L'actrice porno des années 70. Porto,
parce qu'elle coûtait pas cher. Oui, le titre original, c'est Rabid. Rabid, voilà. Ouais. On passe à un autre extrait, c'est un film très connu, c'est une Palme d'Or.
Mais le Major Burns a formulé des critiques.
Oui, ça m'étonne pas. Frank Burns ignore la différence entre un billard et une cuisine. Il est tout juste bon à couper un steak. Et si vous saviez un peu observer, vous auriez remarqué que le Major Frank Burns est un imbécile. Qu'il est complètement siphonné et que comme chirurgien, c'est le dernier des tocards.
Je regrette, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le Major Burns est au contraire un excellent chirurgien et un très bon diagnosticien.
C'est fini?
J'ai remarqué aussi que les infirmières vous appellent très souvent Œil de Lynx.
Oui, parce que c'est mon nom, Œil de Lynx, Pierce.
Eh bien, ce genre de familiarité est totalement incompatible avec la discipline qui
oh,
doit...
Oh, arrêtez, vous voulez, Major. Vous m'avez coupé l'appétit, moi qui ferai des barcesses pour un homard. Vous vous rendez compte? Je vais aller me mettre au lit pour oublier et je vais me taper une bonne bouteille de scotch. C'est dommage, mais en temps normal, comme vous êtes normalement constituée et même assez tentante comme bonne femme, je vous aurais demandé de venir partager ma couche et vous auriez peut-être accepté. Mais vous m'écœurez. Honnêtement, vous êtes ce qu'on appelle un comique troupier.
Mon Dieu, quelle insulte! Vous êtes un comique troupier, donc ça a été trouvé, Manu?
Ben, MASH d'Altman.
De Robert Altman en 70, donc une Palme d'Or, ça se passe en guerre de Corée. Et là, pour le coup, c'est que des chirurgiens, sauf que c'est un camp militaire. Voilà. On écoute le dernier extrait, alors là, ça va être très, très, très facile.
Ça vous la coupe, hein? Tant de demeurer de cinglé, de minus à bince, hein? Un hourra pour Murphy, le bandeur, qui refait surface et la couche chargée à bleu!
Alors, Sagaz, Miss Ratchett, content d'être de retour.
Nous sommes très contents de vous revoir, Randall.
Très touché.
Voulez-vous vous reposer aujourd'hui ou voulez-vous vous joindre au groupe?
Oh, je serais tout à fait désireux de rejoindre le groupe. Avec joie. Je suis fier de rejoindre le groupe, Mildred.
Comment ça va, Mac?
À merveille, petit Billy. Absolument au poil. Ils m'ont filé 10 000 watts par jour. Tu sais, alors je pète le feu. La première fille que je vais sauter va s'allumer comme un flipper. Et je vais me taper de ces parties gratuites.
Vous êtes très amusant, très drôle, Randall.
Merci.
Mais à votre arrivée, nous parlions avec Jim. Il a un problème de médicaments.
Alors là, ça ne me dérange pas du tout. Bien au contraire, j'allais vous en prier. Je suis doux comme un petit toutou. Je vous en prie, poursuivez. Merci.
Alors, bah, c'était plutôt facile. Donc, Marine dort. Donc.
Mais non, il faut croire que ça ne me parle pas.
Vol au-dessus d'un nid de coucou.
De Milos Forman, film de 75, avec Jack Nicholson, voilà, bah, qui est dans un hôpital psychiatrique. Alors ça, le cinéma, par contre, dans les hôpitaux psychiatriques, il va plus volontiers que dans les hôpitaux généraux. Voilà. Et donc, il métamorphose, dernier film de Christophe Honoré. Alors, l'histoire, eh bien, devant son lycée, une fille se fait aborder par un garçon très beau mais étrange. Elle se laisse séduire par ses histoires. Des histoires sensuelles et merveilleuses où les dieux tombent amoureux de jeunes mortels. Le garçon propose à la fille de le suivre. Donc, dans une histoire, cette fille, elle se fait appeler Europe et elle rencontre Jupiter Marine. Donc, c'est une adaptation contemporaine et libre des Métamorphoses d'Ovide, hein, ce long poème épique, 15 livres et environ 12 000 vers, relatant les grands mythes et légendes grecques et les transformations des dieux, déesses ou héros latins. Alors, c'était quand même pas facile de le condenser en 1h30. Il l'a fait en trois parties, Christophe Honoré.
Oui, c'est un film qui n'est pas facile, tout court même, tout court. Je dirais. Oui, c'est un film qui est audacieux, qui est conceptuel. Donc, comme tous les films conceptuels, eh bien, la première partie est toujours un petit peu dure parce qu'il faut vraiment se mettre dedans. Pour moi, ça ne marche pas totalement, vraiment. Alors que pourtant, j'aime beaucoup Honoré. Là, il s'intéresse à l'adolescence, donc il y a vraiment une période comme ça de métamorphose, justement. C'est apparemment pas ce qui lui va le mieux. Et en plus... pour moi, le principe de prendre des comédiens non professionnels pour chercher cette espèce de fraîcheur comme ça, là, en fait, ça ne marche vraiment pas. Je trouve que vraiment les comédiens ne sont pas très bons. Hormis quelques-uns comme ça qui sortent du lot, mais je trouve quand même que c'est un petit peu gênant dans l'ensemble d'avoir une mise en scène comme ça aussi bonne, aussi belle, et des comédiens qui, pour moi, ne sont pas à la hauteur justement du reste. Donc pour moi, non, ce n'est pas vraiment une réussite.
Voilà, donc un mélange effectivement de comédiens amateurs, des comédiens professionnels, ils sont la plupart du temps amateurs. Alors ce qui ajoute en plus à ça, c'est qu'ils filment alors en pleine nature, soit en pleine nature, soit dans les zones industrielles ou dans les cités.
Oui, c'est toujours quand même très proche des villes.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le périurbain. C'est pas forcément tout le temps très beau. Voilà, ça ajoute aussi à cette espèce d'étrangeté. Soit on est d'accord et on le suit. Enfin, moi, j'avoue que j'ai eu un petit temps d'acclimatation et qu'après, je me suis laissé guider. Mais je le rapprochais finalement, ce film, d'un autre film qui est lui d'Alain Guiraudy, qui s'appelle Du soleil pour les gueux. C'était quatre personnages sur le Larzac. Pareil, avec des histoires absolument extraordinaires. Alors, c'était pas, certes, la mythologie, mais je trouvais qu'il y avait effectivement une économie de moyens aussi chez Alain Guiraudy et que ça fonctionnait beaucoup mieux. Parce que là, l'économie de moyens, finalement... Alors, elle se retrouve non seulement dans l'interprétation, mais aussi dans le choix des décors. Et après, alors les effets spéciaux, ça va encore à peu près, parce qu'il arrive à engloutir une ville. Enfin, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Mais voilà, ça manque un peu de qualité. Voilà, c'est un peu dommage. Je pense que ça aurait pu être relevé finalement avec une meilleure facture, une meilleure forme.
Ouais.
Métamorphose de Christophe Honoré, quand même film inclassable. Hein. Enfin, oui. C'est, pour le coup, moi, mais... je trouve ça plutôt bien, n'empêche que ce soit produit encore en France.
Oubliable aussi, je pense.
Peut-être, mais en tout cas...
Ça ne laissera pas grande trace et ça ne sera pas un des films de cette année.
Non, j'imagine, mais c'est un film à part.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Sur Divergence FM.
Qu'est devenu Macaulay Culkin, le très jeune acteur de Maman, j'ai raté l'avion. Eh bien, c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, pour ceux qui avaient oublié ou qui étaient peut-être un petit peu trop vieux déjà à cette époque-là, on va écouter tout de suite un petit bout de ce chef-d'œuvre.
Tout le monde dans cette famille est contre moi.
Eh bien, demande au Père Noël une nouvelle famille.
Je veux pas de nouvelle famille, je veux aucune famille. La famille, c'est chiant.
Ne bouge pas d'ici, je ne veux plus te voir avant demain matin.
Oui, et moi je ne veux plus te voir avant la fin de ma vie, et c'est pareil pour tous les autres d'ailleurs.
J'espère que tu plaisantes.
Macaulay Culkin, c'est probablement l'enfant star le plus représentatif des dégâts occasionnés par le cinéma, qui après Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion, on notera l'inspiration des distributeurs français, a tout simplement raté sa carrière. Acteur à 4 ans, star à 9 et retraité à 13, il est passé, comme Lindsay Lohan et autres Charlie Sheen, de bankable à infréquentable, de façon, pour sa part, en revanche, totalement assumée. Enfant extrêmement précoce, issu d'une famille où la pratique artistique fait partie intégrante de la génétique, Macaulay débute dans la vie avec un pédigré de futur star. Suite au triomphe de Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, ce sont, ironie du sort, les géniteurs de l'enfant prodige qui feront couler sa carrière florissante. Trop avide et trop désireux de battre le fer, je n'ai pas dit l'enfant, tant qu'il est encore chaud, les parents du jeune acteur feront de mauvais choix, comme celui de lui faire interpréter un rôle à contre-emploi total dans un polar psychologique intitulé « Le bon fils ». Ironie encore, ce film qui précipitera la chute du Blondinet permettra dans le même temps de faire éclore un autre jeune acteur qui lui saura tirer son épingle du jeu, ou plutôt son anneau du feu, puisqu'il s'agit de, de Elijah Wood, qui se retrouvera 10 ans plus tard à l'affiche de la trilogie de Peter Jackson. C'est lui-même qui décidera d'arrêter sa carrière suite à plusieurs échecs cinématographiques. Il va alors devoir affronter seul cette période pleine d'hormones, de poils et de boutons qu'est l'adolescence, puisque sa famille passera des années à se déchirer autour de la gestion de sa fortune. Il disparaît ensuite totalement des radars médiatiques pendant de longues années, jusqu'à ce que la presse People s'intéresse à nouveau à lui et entreprenne de capitaliser sur sa supposée déchéance. Ainsi, lorsque vous tapez son nom dans la barre de recherche Google, on vous propose automatiquement Macaulay Culkin mort plutôt que Macaulay Culkin nu, ce qui est en général signe de mauvaise santé. Visiblement pas très en forme et pas du tout nostalgique des plateaux de cinéma, Macaulay arbore dorénavant du vernis sur les ongles et un grain de peau qui flore bon les opiacés. Pour ce qui est de sa reconversion artistique, Harmony Korine, en 98, verra en lui une muse névrotique incarnant la post-adolescence torturée de façon aussi déchue qu'il la conçoit, et le réinvente à travers son clip pour Sonic Youth, puis le prendra ensuite comme modèle pour divers projets de photos. Ensuite, Macaulay Culkin a monté un groupe de rock assez récemment, The Pizza Underground, au postulat ambitieux et particulièrement punk, puisqu'il s'agit de reprendre des chansons du Velvet Underground en remplaçant le plus de mots possible par le mot « pizza ». Alors, le groupe semble malheureusement rencontrer l'incompréhension du public, puisque le chanteur néophyte, copieusement hué sur scène, a dû écourter son premier concert la semaine dernière. Apparemment, pas sûr que sa nouvelle carrière dure encore vraiment longtemps. Il habite maintenant à Paris, ce qui est peut-être aussi un symptôme de mauvaise santé mentale à part entière, on ne sait pas. Macaulay Culkin, en tout cas, ne veut plus entendre parler de son passé cinématographique et encore moins d'un éventuel futur en forme de retour à Hollywood.
Eh bien, merci Marine pour nous donner des nouvelles de ceux qu'on ne voit plus. Et après, que sont-ils devenus? Finalement, c'est sans espoir de retour.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Sur Divergence FM.
Alors, est-ce que vous connaissez David Goodis?
Eh bien, non.
Pas du tout.
Non, et il s'agit certainement d'un des meilleurs auteurs de polar américain des années 40-50. Alors, son premier roman a donné un chef-d'œuvre au cinéma qui s'appelle Les Passagers de la Nuit, avec Delmer Daves avec Lorraine Bacall et Humphrey Bogart. Alors, il a signé à l'époque un contrat chez Warner, mais ses scripts sont systématiquement rejetés. Donc, il va sombrer dans l'alcool. Il va signer des romans formidables, des romans noirs assez désespérés, racontant plus souvent la dérive de personnages borderline déchus et alcooliques. Alors, oublié dans son pays natal, il sera réhabilité en France, et qui s'intéressera très vite à ses romans. Et le premier, c'est donc François Truffaut avec « Ne tirez pas sur le pianiste ». Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que dans les années 80, ses ouvrages vont être remis à l'honneur. Le cinéma s'intéresse à nouveau de très près à cet auteur, qui est fasciné par les losers et les anti-héros. Alors, Rue Barbare de Gilles Béat, La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex, Descente aux enfers de Francis Giraud, et enfin, le film qui nous intéresse, Sans espoir de retour de Samuel Fuller, qui donc est un film assez curieux. Alors, comment appréhender un tel film sans penser d'abord à la carrière de Samuel Fuller? Alors, c'est bien un film français, ça a beau être un cinéaste américain, mais je parle bien donc du polar français, je reste bien dans le cadre. Alors, c'est un cinéaste assez méprisé dans son pays, relégué au rang de tâcheron et adulé par contre en France par une poignée de cinéphiles. Enfin, aujourd'hui, la cause est entendue, Fuller était considéré comme un réalisateur incontournable. Des œuvres comme Choc Corridor, Police Spéciale ou 40 tueurs sont des classiques instantanés. En 84, Fuller, après l'échec d'un film qui s'appelait Dressé pour tuer, une adaptation d'un roman de Romain Gary, il débarque en France et tourne Les voleurs de la nuit avec Véronique Jeannot. Oui, c'est vrai. Alors, un échec cuisant qui sonnait comme une fin de carrière finalement peu glorieuse. Mais Jacques Brel, un grand amateur de polar, réalisateur d'ailleurs d'un film qui s'appelle Polar, en décida autrement. Producteur pour l'occasion et admirateur du metteur en scène, il propose à Fuller, un dernier coup d'éclat, une adaptation d'un livre de Goodis, Street of No Return, donc Sans espoir de retour, qui date donc de 54. Et puis... moi, je me dis simplement, c'est que je rêvais de ce que Fuller aurait pu faire à l'époque. Parce qu'en 89, finalement, c'est peut-être pas une si bonne idée, car le cœur n'y est plus vraiment. Alors, à l'instar de La Lune dans le caniveau et Rue Barbare, Sans espoir de retour baigne dans une esthétique très années 80, avec des usages excessifs de filtres bleus et puis les fumées qui se dégagent de la moindre bouche d'égout. Alors, là n'est au fond pas vraiment le problème de ce parti pris. Hein. Fuller s'éloigne de tout réalisme au point parfois que l'on pense visionner un film entièrement tourné en studio, alors qu'il y a beaucoup d'extérieur. Le film est tourné dans le port de Marseille. Alors ce polar à la fois sentimental et existentiel paraît un peu désincarné. C'est un film qui apparaît comme un curieux exercice de style qui s'affranchit du bon goût où on sent Fuller expérimenter donc tout et n'importe quoi. Alors il accumule les plans obliques, les effets de montage syncopés, les affiteries visuelles bizarres typiques en fait de l'époque. Il réalise aussi un petit fantasme, tourner une scène d'émeute dans des décors urbains rendant hommage au cinéma expressionniste. Alors, au-delà de toutes ces escorines mises en scène, un autre problème vient du scénario. Le roman était dense, racontait la déchéance d'un pauvre artiste qui a eu le malheur de tomber amoureux de la mauvaise fille. Alors, sujet typique de film noir. Hein. Mais dans le film, on nous présente donc Michael, un chanteur ringard qui se rêverait un peu David Bowie, mais qui nous écorche les oreilles avec vraiment des morceaux insupportables. Alors, par malchance, il tombe amoureux de Célia, qui est la maîtresse d'un caïd qui se venge en défonçant le larynx d'un pauvre troubadour. Alors Michael ne devient plus qu'une épave, une cloche qui erre dans les rues, sans espoir donc de retour, jusqu'au jour où, quelques années après, il revoit Célia et qu'une occasion lui permette de reprendre sa revanche. Alors c'est un beau sujet, mais le récit part un peu dans tous les sens et surtout la direction d'acteur est plus qu'inégale. Le jeu outré d'Andrea Ferréol et de Marc Dejon se passe difficilement les années, tandis que Kate Carradine, frère de David, est assez transparent et sous-exploité. Alors, l'actrice principale, Valentina Vargas, c'est plutôt belle, mais c'est tout. Et puis surtout, il y a des dialogues assez creux. C'est un peu dommage. On va écouter un extrait, mais alors assez creux. Et en plus, je trouve que la VF est assez catastrophique.
Je t'avais prévenu, rappelle-toi. Quand un professionnel baise avec une amateur, ça fonctionne pas bien, chimiquement. Jusque-là, t'as toujours aimé les gens en général, Michael. Et personne en particulier. Et Célia fait partie de ceux qui ne comptent pas. Disons que tu t'es gourée, une fille de plus. Oublie-la.
Elle, c'est autre chose. Et je me gourre pas là. Je vais partir avec elle.
Quand?
Ce soir.
Mais où vas-tu?
Aucune idée.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, bordel, aucune idée?
Et c'est pour ça que je suis venue, Rhoda. Pour te donner le temps d'annuler tous mes concerts, je dis bien tous.
Toi, annule-les. 4 concerts à guichet fermé, mais tu te rends compte? C'est toi qui feras le sale boulot, qui annulera tout.
Tu trouveras des tas de chanteurs prêts à me remplacer en 20 minutes, tu le sais.
C'est ta queue qui dit ça, pas ta tête.
J'étais pas obligé de venir. Je pouvais t'appeler.
C'est le peu de conscience qui te reste dans les couilles qui t'a poussé à venir jusqu'ici.
Je suis venu parce que tu as le droit de le savoir maintenant.
Oh, ça oui, j'ai foutrement le droit de le savoir. Mais j'ai aussi le droit de...
Pas de violon sur ce que tu as fait pour ma carrière.
Non, je ne dis rien. Je ne te parlerai même pas de ce que toi, tu as fait pour moi. Mais j'ai le devoir de te faire honorer ces 4 contrats parce que tu étais d'accord.
Il y a rupture.
Tu as signé.
Je ne dois rien à personne.
J'entendais une autre chanson au début de ta carrière.
Si je marche, j'ai des fans. Si je me ramasse, je ne suis plus de la merde.
Pourquoi, malgré tous ces défauts, quelque chose résiste empêchant le film de sombrer dans les arcanes du nanar? Alors, Sans espoir de retour possède un charme malgré tout, une naïveté jusque dans ses expérimentations improbables, une sincérité qui en font un plaisir coupable, une de ces œuvres dont on ne comprend pas vraiment pourquoi on l'aime au fond. Peut-être parce que on reste admiratif devant la carrière de Fuller et que quelque chose de sentimental reste imprégné en fait.
La nostalgie alors.
Oui, mais il y a des bonnes choses. Hein. Ouais. C'est une sorte de nanar, mais qui possède une facture visuelle assez étonnante. C'est un film assez décalé, étrange, quelque part entre le cinéma des années 40 et puis le clip vidéo en fait. C'est curieux comme mélange.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ainsi s'achève Cinérama, émission hebdomadaire de cinéma. On se retrouve la semaine prochaine avec un film pour le polar français qui s'appelle...
Qui s'appelle Polar et on voilà. Continue dans les adaptations d'un roman de Jean-Patrick Manchette.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneur,
Rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.